Merci d'écouter Radio Okapi. Il est 18h à Kinshasa, une heure de plus à Sangé. Voici la grande édition du journal de la soirée.
Radio Okapi.
Retour au calme cet après-midi à Sangé dans le sud Kivu. C'est après la tension qui a régné ce matin à la suite du meurtre de 14 personnes la veille par un militaire ivre. Le chef de l'État condamne cet acte et présente ses condoléances aux familles éprouvées. Ouverture hier à Bunia de la session extraordinaire à l'Assemblée provinciale de l'Ituri. C'est pour statuer sur les difficultés de fonctionnement de l'Assemblée et du gouvernement de l'Ituri par manque de budget, a dit le rapporteur de l'organe délibérant de l'Ituri. Et puis, l'invité de ce soir, Teddy Mpoy, directeur du service de l'éducation civique et patriotique des FARDC dans le Grand Nord du Nord Kivu. Il nous parle des sensibilisations en cours sur les violences basées sur le genre, activités organisées dans tous les cantonnements militaires à Beniville et ses environs. Madame, messieurs, bonsoir. Ce journal part du sud Kivu. Une accalmie s'observe depuis cet après-midi à Sangé dans la plaine de la Ruzizi en territoire d'Uvira. C'est après une journée très tendue à la suite des manifestations des jeunes en colère. Ces derniers dénonçaient l'insécurité grandissante après une série de tirs qui ont fait 14 morts et 7 blessés la nuit d'hier à ce vendredi dans la cité de Sangé. Le gouverneur du sud Kivu s'est fait accompagner à Sangé par le commandant de la 33e région militaire et du commandant Sokola 2 au sud du sud Kivu, Fiston Ngoma pour le reportage.
C'est à l'issue d'un meeting populaire tenu aussitôt arrivé que le gouverneur des provinces du sud Kivu a trouvé un compromis avec le manifestant de Sangé. Dans leur mémorandum, ce manifestant exigeait le départ immédiat des membres du conseil local de sécurité. Le gouverneur Teongwa Bidjé s'est immédiatement incliné devant cette demande. Quant à l'installation effective de l'administrateur du territoire d'Uvira à Sangé, l'autorité provinciale a promis de le faire incessamment. La question du départ de la MONUSCO a été renvoyée à Kinshasa. La délégation provinciale a pris en charge les frais funéraires pendant toute la période de deuil au niveau des familles éprouvées. Après ces compromis, les corps des victimes ont été dégagés de la route et seront mis en terre ce samedi. D'après le président de la société civile à Sangé, Bernard Tondo, la situation est maîtrisée. Cependant, des inquiétudes planent encore sur les sorts réservés aux bourreaux, présumés auteurs de cette série de tueries la nuit d'hier dans le quartier de la cité de Sangé. À cette question, le commandant du secteur opérationnel Sokola 2 au sud de la province du Sud Kivu a promis qu'une fois attrapé, les bourreaux devront répondre de ces actes dans une audience en flagrance à Sangé. Pour l'instant, affirme cette source, les troupes de FARDC déployées sur le terrain sont encore à la recherche du présumé criminel. D'Uvira, Fiston Ngoma Mayabala, Radio Okapi.
En réaction, le chef de l'État condamne avec fermeté ce meurtre, renseigne le compte Twitter de la présidence de la République. Félix-Antoine Tshisekedi présente aussi ses condoléances aux familles éprouvées, indique la présidence. Pendant ce temps à Matadi, malgré la répression de la marche réclamant le départ du gouverneur Atumatubwana ce vendredi, les objectifs sont atteints, déclaration du vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central devant la presse à Matadi. Edmond Luzololwa Langanga estime que le message qu'il souhaitait véhiculer au travers de la dite marche est bien passé. Cependant, ce dernier déplore certaines bavures constatées dans la répression des manifestants. Des détails avec Nana Plurish Mambu.
Préalablement interdite par les commissariats provinciaux de la police, cette marche organisée par les députés nationaux et provinciaux, dispersée à quelques 15 minutes de son début par d'importants dispositifs sécuritaires, a fait des victimes parmi lesquelles le député national Albert Fabrice Puela, fracturé à la jambe. Edmond Luzolwanganga dresse les bilans.
Nous avons été interceptés par la police qui agit comme si nous étions une autre armée de l'Est qui est venue s'installer au Congo central. Les papis Lévi, avec un groupe de la police, ont commencé à nous jeter des pierres. Et par là, la police s'est engagée à nous bomber les gaz lacrymogènes. Ce que nous regrettons, il vient d'arrêter un honorable député. 4 chefs coutumiers également sont arrêtés.
Craignant la lire qui prend cette situation suite à l'insensibilité du pouvoir central, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Mambo Luamba, lancent cet appel au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde.
Je m'adresse au ministre de l'Intérieur qui me suit de prendre ses responsabilités. Il doit agir. Au Kasaï, il a agi. Au Kwango, il a agi. Qu'est-ce qu'on attend au Congo central? Si Kinshasa ne répond pas, nous allons convoquer une session extraordinaire pour annuler les 10 les taxes et impôts de la province de Congo Central. La DGKC restera une coquille vide sans taxes. Et nous allons convoquer une session extraordinaire pour élire un gouverneur de notre province.
Ces députés réclamant le départ du gouverneur envisagent encore manifester dans toute la province la semaine prochaine si le chef de l'État n'y réagit pas, disent-ils. Matadi, Nana Pleurish Mambou, Radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika, le gouvernement provincial condamne la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kalemie. En effet, des bandits opèrent avec des armes à feu et des armes blanches. Le gouvernement provincial cite les motos comme étant des engins utilisés pour créer cette insécurité. Ainsi, les motos sont désormais interdites de circuler entre 20h et 5h locales à dater d'aujourd'hui. Les propriétaires des motos ont par ailleurs un délai de 7 jours pour faire identifier leurs engins auprès de la mairie et ce, à dater de ce 31 juillet 2020, d'autres détails avec Expedi Mombamoubi.
Des bandits qui s'introduisent dans une maison sur l'avenue Katal et blessent par balle la résidente. L'incident s'est produit dans la nuit du 29 au 30 juillet. C'est le dernier d'une série des cas de banditisme que condamne le porte-parole du gouvernement provincial et ministre de l'Intérieur, Dieudonné Kamona. Comme si cela ne suffisait pas, la journée d'hier jeudi a été mouvementée, particulièrement dans la commune Lukuga. Un motard qui percute un enfant au quartier Mukuku. La population qui réagit par la lapidation à mort de ce motard. Ses camarades motards qui organisent une expédition punitive dans le quartier. La police qui s'interpose. Pour le gouvernement provincial, les motos participent à l'insécurité, d'où l'interdiction de leur circulation à partir de 20h.
La plupart des malfrats qui opèrent la nuit avec les armes à feu ou les armes blanches utilisent les motos pour s'enfuir, soit pour évacuer leur butin de vol. La circulation de toutes les motos de transport en commun et celle des particuliers à partir de 20h. Jusqu'à 5h est strictement interdite.
Kalemi, expédie-moi Bamoubi Radio Okapi.
Les leaders communautaires du Nord Kivu doivent se parler sans hypocrisie et s'impliquer concrètement à sensibiliser leurs fils à déposer les armes afin que la paix soit rétablie en province. C'est ce que pense le président de la coordination de la société civile Force Vive du Nord Kivu. Il a exprimé ce vendredi, deuxième jour du dialogue qui se tient à Goma entre les communautés ethniques et les autorités provinciales. Des questions sécuritaires, de cohabitation et de la participation à la gestion de la province sont au cœur des débats dans ces assises. Le compte-rendu de Sifa Maguru.
Pour John Banyene de la société civile, ces dialogues peuvent aboutir à de bons résultats si les autorités au niveau provincial et national prennent en compte les préoccupations et frustrations de certaines communautés et y trouver des solutions. Cet acteur souligne aussi le problème d'impunité qui favoriserait, selon lui, l'insécurité au Nord Kivu. Banyene revient ici sur certaines préoccupations des communautés.
Il y a certaines communautés qui ont des leaders politiques d'ailleurs qui entretiennent quelque part ces milices-là. Certaines autorités sont connues, mais malheureusement, l'impunité aussi est à la base de cette insécurité. Ce sont ces gens qui soutiennent ces groupes armés qui ont des grades supérieurs dans l'armée et dans la politique. Bon, la plupart des communautés, surtout ces 10 minoritaires, sont en train de réclamer la gestion de la chose publique. Ils sont vraiment marginalisés, tels que les Batembo, les Batere.
Le président de la société civile du Nord Kivu ajoute que les recommandations issues de ces assises ne doivent pas rester dans les tiroirs, mais doivent être suivies d'application. Rappelons que près de 200 participants prennent part à ces dialogues dits des vérités qui se clôturent ce samedi à Goma. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Direction la ville de Bunia, ouverture hier de la session extraordinaire à l'Assemblée provinciale de l'Ituri, une session axée sur l'examen et l'adoption du budget de l'exécutif provincial exercice 2020. Mais pourquoi convoquer une session extraordinaire à la veille de la session ordinaire de septembre qui fixe normalement les prévisions budgétaires de la province? Tentative de réponse avec Ezekiel Mouzalia.
Cette session extraordinaire est ouverte au moment où les deux principales institutions provinciales, l'Assemblée et le gouvernement de l'Ituri fonctionne depuis plus d'une année sans budget. Le crédit provisoire qui couvrait les dépenses courantes de l'exécutif provincial n'a pas suffi pour combler les besoins. C'est la principale raison évoquée pour justifier la convocation de cette session extraordinaire. Julie Adabaï, la rapporteuse de l'Assemblée provinciale de l'Ituri.
Il était plus que nécessaire de doter la province d'un budget. budget exercice 2020. Parce que justement, le chef de l'exécutif provincial s'est rendu compte que c'est le crédit provisoire qui est en train tout simplement de faire vivre la province ces jours.
Néanmoins, plusieurs acteurs politiques jugent inopportune la convocation de cette session extraordinaire. Pour Christian Chaouri, un acteur politique en province, ces élus n'ont aucun fondement juridique pour convoquer cette session.
Vraiment, ça met l'opinion en confusion. Et pourtant, on attendait que l'année prochaine, dans la session de septembre, que la province soit dotée de son budget de 2021.
La prochaine séance de cette session extraordinaire a été fixée au mardi 4 août prochain, avec la réponse de l'exécutif provincial sur l'adoption de l'édit budgétaire. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Il n'y a pas de crise institutionnelle en RDC pour exiger la tenue d'un dialogue politique national. C'est en ces termes que s'est exprimé le parti politique Ordre Nouveau en réaction aux appels au consensus politique. Jean-Willy Kalonji, président de ce parti proche de l'UDPS, l'a déclaré jeudi au cours d'un point de presse à Kinshasa. Jean-Willy Kalonji est au micro de Paul Matendo.
Le dialogue est une exception qui intervient en temps de crise. Or, je vous dis ceci, il n'y a pas crise dans ce pays. Cette crise a été montée de toutes pièces. Ceux qui demandent le dialogue aujourd'hui, ceux qui redoutent le rouleau compresseur de l'état de droit. Je voudrais que les Congolais comprennent. Nous avons l'armée, la police, la diplomatie, la justice. Aujourd'hui, avec l'instauration de l'état de droit, il ne reste que les finances. Mais les finances, avec la consolidation de l'état de droit, nous aurons mis fin à l'impunité, à la corruption et au coulage de recettes. Conséquence, n'est-ce pas? Nous allons renflouer les caisses de l'état et améliorer les vécus quotidiens du peuple congolais.
Rendons-nous au Kasaï oriental pour signaler la remise ce vendredi des thermoflashs et d'un lot important des masques dans les hôpitaux généraux de référence de Mbujimayi ainsi qu'au personnel chargé de la paix à la minière de Bakwanga Miba. C'est un don du gouverneur honoraire de l'ancienne province du Katanga, Moïse Katumbi. D'après le président provincial de Ensemble pour le changement au Kasaï oriental, le but est de prévenir la propagation du coronavirus et aussi conscientiser la population sur l'existence de la maladie, ce malgré la levée de l'état d'urgence sanitaire en RDC. Richard Kana, président provincial de Ensemble pour les changements, joint par Esther Dalafina.
On a vu pour chaque porte d'entrée de chaque hôpital le général de référence et juste de la ville de Mbujimayi, Dikumba, Bonzola, Kansele et Mouya. Oui, à la direction de Pei Mibala, ça nous a fait quelque chose comme 15 portes de sortie dans les masques pour tous les personnels soignants. Mais pour nos amis de la Miba, c'est juste pour les personnels qui reçoivent, ce n'est pas pour tous les travailleurs. C'est juste en termes de prévention et qu'il y a cette circulation, on s'est dit que en termes de prévention, il faut quand même qu'il y ait des endroits où les gens, quand ils se présentent, ils sont checkés. Donc déjà, ça entre dans la tête que la maladie est toujours là et les gens peuvent faire attention. Quand les gens entrent dans des hôpitaux et qu'ils trouvent tout le personnel de la réception à la caisse, des gens avec des masques, ça va interpeller les consciences et les gens peuvent prendre en considération. Il y en a qui pensent que, comme on a levé la mesure d'urgence, ça arrêterait que la maladie est terminée. Non. Donc, c'est en termes juste d'alerte de la population.
Coronavirus en RDC. Le pays compte à ce jour 9009 cas confirmés. Au total, il y a eu 215 décès, dont 214 et un cas probable. Une bonne note tout de même, 6437 personnes sont sorties guéries de cette maladie, cela depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars dernier en République démocratique du Congo.
Actualité Afrique Monde.
Cour pénale internationale, CPI, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devront encore attendre pour être fixés sur leur sort. Les audiences terminées, les juges de la CPI vont devoir délibérer sur l'appel déposé par la procureure Fatou Bensouda contre l'acquittement de l'ex-président ivoirien et de son ancien ministre, mais aucun délai n'a été fixé pour l'énoncé de leur verdict. C'était une grande première à la haie en raison de la pandémie de COVID-19. Les audiences de la chambre d'appel se sont déroulées en partie par par visioconférence. Durant 3 jours, soit du 22 au 24 juin, juges, avocats, greffiers et interprètes prenant part au procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont échangé par écran interposé. Aux États-Unis, l'élection présidentielle de novembre prochain pourrait être reportée, c'est du moins ce qu'a suggéré Donald Trump jeudi sur Twitter. Le président américain a évoqué des risques de fraude liés à la mise en place du vote par correspondance dans de nombreux États. Trump parle alors de l'élection la plus inexacte et la plus frauduleuse de l'histoire, selon lui, mais la Constitution des États-Unis ne permet pas au président de déclarer la date des élections et Donald Trump en est conscient. Dans le monde cellulaire, notez que pour la première fois et malgré les sanctions américaines, Huawei prend la tête des ventes de téléphones portables au deuxième trimestre. Le fabricant chinois a détrôné d'un cheveu Samsung avec 55,8 millions de smartphones écoulés contre 53,7 millions pour son rival sud-coréen. Une nouvelle qui n'inquiète pas plus que ça en Corée du Sud. Huawei est numéro 1 des smartphones, mais en Corée du Sud, les haut-parleurs des magasins de téléphones continuent de chanter la galaxie Samsung, iPhone et LG sur les trottoirs. Des affiches au prix cassé jusqu'à moins 50% peinent à retenir les passants, ce qui n'empêche pas Samsung de rester serein. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer, dit le commerçant.
L'invité.
Le collectif des associations féminines de la ville de Beni organise depuis le début de ce mois de juillet une série de sensibilisations sur les violences basées sur le genre. L'activité se déroule dans tous les cantonnements militaires installés aux alentours et dans la ville de Beni. Pour en parler, nous recevons le colonel Teddy Mpoy, directeur du service de l'éducation civique et patriotique des FARDC dans la partie Grand Nord du Nord Kivu. Il s'entretient avec Marc Marofimbo.
Monsieur le colonel Teddy Mpoy, bonjour.
Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste.
Pour vous personnellement, ce genre de sensibilisation sur les violences basées sur les genres pour les militaires et leurs femmes, ça a quel type d'utilité?
Nous voulons un peu mettre fin aux rumeurs. Ce que nous avons appris, qu'il y a certaines jeunes femmes, des filles moins de 18 ans, et certaines mamans qui quittent leur maison pour aller suivre les militaires dans les cantonnements. Avec nos partenaires, nous avons jugé bon, au lieu que de rester chaque fois au bureau, il faut descendre sur le terrain, parler un peu la réalité, et demander ensemble, causer ensemble avec les mamans et les militaires, pour savoir ce qu'on est en train de parler, de dire c'est vrai ou ce n'est pas vrai. C'est ce que nous sommes en train de faire avec nos partenaires. Et, vous voyez, nous avons débuté par 300 maisons. Nous étions sur Rwangoma. Toujours là où il y a les militaires et leurs partenaires. Nous sommes aussi, aujourd'hui nous sommes sur Massiani. Après ici nous serons Kamambango, ainsi de suite. C'est pour vraiment sensibiliser nos militaires et leurs dépendants. Et surtout de mettre fin au problème que les mineurs ne peuvent jamais quitter leur maison pour suivre les militaires. Parce que c'est punissable. Le problème des viols, vraiment, une fois rapport sexuel avec une fille de moins de 18 ans d'âge, même avec consentement, c'est le viol. C'est punissable. C'est ce que nous voulons vraiment mettre fin au problème. Nous ne voulons pas que nos militaires soient chaque fois poursuivis, condamnés pour le problème des viols. Ça, c'est vraiment punissable.
Monsieur le colonel, dans ce genre de sensibilisation, par exemple, concrètement ici, aujourd'hui, à Massiani, qu'est-ce qui a été dit comme sensibilisation pour vos éléments?
Et aujourd'hui, nous avons parlé d'éviter surtout les problèmes de violences sexuelles. Faire rapport sexuel avec des enfants de moins de 18 ans, même avec une femme qui est majeure, mais sans consentement. Et nous avons aussi tiré les oreilles de nos militaires à ce que les femmes ne peuvent jamais passer nuit dans les cantonnements. C'est que s'il y a attaque, on ne peut pas distinguer que ça c'est la femme, ça c'est un enfant. Non, c'est tout le monde qui va succomber. Et là, il y a un bilan, il y a des morts, des militaires, et puis 4 femmes et les enfants. C'est ça que nous évitons souvent ce genre de pratiques. Et j'ai vraiment donné les instructions au chef peloton, au commandant. Une fois une fille, une femme qui se présente dans les cantonnements, il faut le chasser et sanctionner le militaire pour donner l'exemple aux autres.
Et parmi les recommandations clés aujourd'hui lancées, lesquelles ont été pertinentes?
Oui, aujourd'hui, certaines femmes ont beaucoup parlé, qui, surtout s'il y a le problème des salaires, il y a toujours le tiraillement entre le mari et la femme. Et nous avons conclu à ce que, dans les jours à venir, nous allons nous organiser, causer seulement, prendre l'entretien avec les femmes à l'absence de leur mari. C'est que ici, c'est comme si il y a certaines femmes qui ont eu peur de tout parler. Et nous avons, c'est qu'ils étaient ensemble avec les maris. Mais dans les jours à venir, nous allons, ensemble avec seulement les épouses militaires, leur journée et puis les hommes aussi leur journée. Là, nous allons beaucoup apprendre de leur accusation.
Colonel Tedim Poye, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Voilà, c'était là notre invité, le directeur du service de l'éducation civique et patriotique des FARDC dans le Grand Nord du Nord Kivu. Il s'entretenait avec Marc Marofimbo. Par ici s'achève ce journal, coordonné par Alain Rumushinge, supervision de Ben Kabamba. Patrick Kiasson a été à la technique et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.